Il est 7h.
On est une grande équipe aujourd'hui. On a vraiment tout pour gagner tout le tournoi et essayer la Ligue Champion.
La confiance du président du PSG, le club de la capitale qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, malgré une défaite 1-0 hier soir contre le Bayern Munich. L'enlèvement d'une petite fille de 8 ans hier dans les Vosges, les enquêteurs soupçonnent sa maman d'avoir commandité le rapt. Dans ce journal aussi, le vaccin AstraZeneca objet de nouvelles plaintes. Selon les informations d'Europe 1, 9 décès suspects désormais entre les mains d'un avocat. Et puis, des festivals en version réduite ou délocalisée, les astuces du monde de la culture pour pouvoir être au rendez-vous cet été malgré le Covid. Juste après ce journal, les Claire Ageco, Nicolas Barré, le regard international avec Jean-Sébastien Soldaini.
Il y a 3 jours, tout le monde pensait que l'accord sur le nucléaire iranien pouvait repartir. Il a suffi d'une petite explosion pour relancer les centrifugeuses iraniennes qui tournent à plein régime.
L'édito sport de Virginie Fulpin et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, visiblement ici tout le monde est bien réveillé, personne n'est dans le coltard. Tiens, d'où ça vient cette expression être dans le coltard ?
Très bon réveil à toutes et à tous, la réponse dans une vingtaine de minutes. Vous écoutez Europe 1, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et une ambiance de fête pour commencer ce journal. Marion Calais, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On est en demi, l'ambiance dans les vestiaires du PSG. Hier soir, les Parisiens qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'ils se sont inclinés hier soir sur leur pelouse face au Bayern, 1-0. Mais le matelas des 3 buts inscrits la semaine dernière à l'extérieur a suffi.
Une avance cette fois que Paris a su conserver. Cyril de la Morinerie, vous nous avez fait vivre ce match hier soir sur Europe 1. Les Parisiens ont résisté jusqu'au bout aux assauts bavarois.
Oui, c'était une guerre sur le terrain. C'est ainsi que le capitaine Presnel Kimpembe a décrit ce bras de fer. Les Parisiens ont tremblé, un but de plus et c'était l'élimination, mais la digue a tenu, se félicite l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui est resté zen près de son banc de touche.
Je l'ai vécu tranquillement, normal. J'étais focalisé sur mes joueurs en essayant d'aider l'équipe. L'idée était la même et je crois que l'on a mieux défendu.
En première mi-temps, on a cru revivre la finale perdue par Saint-Etienne en 1976 et ses maudits poteaux carrés. Neymar a touché 2 fois les montants, mais le Brésilien aurait mérité d'être récompensé, analyse notre consultant Giroud.
Il a été dans un état moral dans lequel il devrait être toujours. C'est-à-dire qu'il a joué. Il a joué avec l'arbitre, il a joué avec ses adversaires d'une manière correcte. Il y a quelques chefs-d'œuvre techniques.
Pour la 3e demi-finale de leur histoire, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund ou Manchester City qui s'affrontent ce soir. Une dernière étape à franchir avant de rallier Istanbul où se déroulera la finale.
Et pour le président du PSG, désormais Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir. On a tout pour gagner la Ligue des Champions, a donc dit Nasser Al-Khelaifi.
Une alerte enlèvement brièvement déclenchée hier soir après le rapt d'une petite fille de 8 ans dans les Vosges.
Kidnapping signalé aux Poulières près de Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes sur place pour Europe 1, Arthur Mbaché. C'est la grand-mère de l'enfant qui a signalé sa disparition.
Oui, bonjour Marion, parce que ça s'est passé ici, chez la grand-mère de la petite fille. Hier, 11h30 du matin, 3 hommes se présentent, donc ici devant cette ancienne ferme vosgienne, un peu à l'écart du village des Poulières. On est ici entre Épinal et Saint-Dié. Ils kidnappent la petite Mia. Les ravisseurs ont entre 25 et 50 ans. L'un d'eux porte un tatouage en forme de croix au niveau du cou, dit la gendarmerie, qui indique qu'ils sont susceptibles de rouler dans un van Volkswagen gris anthracite. Les enquêteurs qui précisent que la petite fille pourrait être accompagnée de sa mère, une femme de 28 ans. Et là, on nous parle d'une Peugeot 207 noire. Alors, tard hier soir, le parquet d'Épinal a décidé, après quelques heures de diffusion, de lever le dispositif alerte enlèvement en précisant que l'enfant n'avait pas été retrouvé et en donnant quelques détails. La fillette a été enlevée alors qu'elle était confiée à sa grand-mère par une décision du juge des enfants. Sa mère n'avait pas le droit d'être seule avec elle. On ne sait pas précisément pourquoi. Le parquet qui fait savoir ce matin que le danger est persistant et que les recherches actives se poursuivent. La petite fille a 8 ans, elle mesure 1m30, cheveux raides, longs et bruns avec une frange, pantalon noir, doudoune blanche.
Arthur Mbaché dans les Vosges pour Europe 1. Ils avaient transféré un gîte près de Toulouse en discothèque clandestine le week-end dernier. 2 hommes d'une 20aine d'années mis en examen hier. L'un d'eux à la tête d'une petite société d'événementiel a été placé en détention provisoire.
Il est intitulé « Pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Le projet de loi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, arrive aujourd'hui en Conseil des ministres.
Un texte déjà contesté dans le milieu des avocats et des magistrats. Plusieurs mesures critiquées, dont la suppression de la réduction automatique des peines ou la généralisation des cours criminels. Ces cours sans juré populaire chargé de juger les crimes passibles jusqu'à 20 ans de prison. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8 heures.
Mais au-delà du milieu judiciaire, ce texte pourrait bien aussi susciter l'intérêt du grand public parce qu'il prévoit d'ouvrir les salles d'audience aux caméras. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, seuls les procès à portée historique sont filmés. Demain, tous les types d'audiences pourraient être enregistrés, mais aussi diffusés, Marion Dubreuil.
Oui, la diffusion d'un procès ne sera possible que lorsque la décision de justice sera définitive. Vous ne verrez pas d'audience à la télévision avant plusieurs années. Les audiences seront choisies en fonction de l'intérêt public, pas médiatique. En clair, pas de procès d'aval, mais pourquoi pas une audience de comparution immédiate. Pour ce qui est des règles d'enregistrement, si le procès est public, que vous soyez partie civile, prévenue, peu importe, pas besoin de votre autorisation pour vous filmer. Le principe de base, c'est d'empêcher tout moyen de vous identifier. Non, prénom, adresse, visage, sauf si vous acceptez la diffusion. Et même si c'est le cas, vous avez le droit à l'oubli 5 ans après la première diffusion. Sur quel canal ? Eh bien, le garde des Sceaux ne s'en cache pas. Il privilégie le service public, mais plusieurs chaînes ont déjà proposé des formats. Dans l'idéal, Éric Dupond-Moretti souhaiterait un rendez-vous hebdomadaire avec un cadre explicatif. Les audiences, qui durent parfois plusieurs jours, ne pourront pas être retransmises telles quelles. Il faudra monter des séquences, quitte à proposer l'intégralité du procès en streaming.
Des prêtres en arrêt de travail. L'appel hier de l'Église catholique d'Haïti après l'enlèvement de 7 des siens. La conférence des évêques haïtiens entend dénoncer l'inaction du pouvoir face à des bandits qui agissent, selon eux, en toute quiétude.
7h07 sur Europe 1. Des vaccins et des soupçons. La France va devoir attendre avant de pouvoir commencer les injections des doses du laboratoire Johnson & Johnson.
Un sérum dont l'utilisation a été suspendue aux États-Unis pour de rares cas de thrombose. Dans la foulée, le laboratoire a annoncé qu'il retardait le déploiement de son vaccin en Europe.
Une nouvelle embûche pour la vaccination, déjà compliquée par la méfiance suscitée par le vaccin AstraZeneca.
Oui, et selon les informations d'Europe 1, ce sont désormais 9 décès suspects qui sont entre les mains d'un avocat de Saint-Nazaire, déjà désigné par la famille d'un jeune interne du CHU de Nantes, mort 10 jours après une injection. Plusieurs plaintes ont donc été déposées, explique cet avocat, maître Étienne Boitin.
Parmi les personnes qui sont décédées, aucune ne présentait un quelconque antécédent médical en relation avec la survenance d'une thrombose qui leur a été fatale. Les plaintes qui ont été déposées l'ont été sur le fondement de l'homicide involontaire. Cette qualification pourrait être amenée à évoluer. Concernant des personnes qui ne sont pas décédées, mais qui disent avoir déploré des conséquences graves suite à l'injection d'AstraZeneca, nous avons une quinzaine de dossiers. Ce sont essentiellement des atteintes de nature vasculaire ou de nature neurologique.
L'avocat maître Étienne Boitin qui affirme également avoir été saisi pour 2 cas présumés de complications liées au vaccin Pfizer. Il répondait pour Europe 1 à Charles Guyard.
Les liaisons aériennes suspendues entre le Brésil et la France. Paris qui cherche à éviter la propagation du variant brésilien.
Un variant qui sème le chaos en Amérique du Sud. Mais qu'en est-il pour l'heure en France? On a décidé ce matin de faire un état des lieux avec vous, Victor Dolande.
Alors pour le moment, le variant brésilien d'IP1 ne représente que 0,5% des contaminations en France, c'est donc très peu. Si on regarde plus précisément les territoires, il est davantage présent dans le nord-est du pays, mais aussi dans la Creuse, en Vendée et en Guyane. Si ce variant préoccupe tant les autorités, c'est parce que les vaccins sont moins efficaces contre lui. Suspendre les vols entre la France et le Brésil, c'est donc une bonne chose, mais c'est insuffisant pour Christine Rousiou, virologue et membre de l'Académie de médecine.
Il faut contrôler ce qui se passe sur le pays, avec du séquençage en très grand nombre de virus pour savoir où il y a du virus brésilien et comment il faut isoler ces personnes.
Ce qui inquiète encore plus Yannick Simonin, virologue à l'INSERM, c'est la situation totalement hors de contrôle au Brésil.
Une forte circulation virale et une forte circulation de variants dans un pays qui ne contrôle pas son épidémie, ça peut aboutir à l'apparition de nouveaux variants. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'empêcher ces éventuels variants de venir sur le territoire.
La question est désormais géopolitique. Comment mettre la pression sur le Brésil pour mieux contrôler son épidémie? Car pour le coup, les scientifiques, eux, sont formels. Laisser circuler trop facilement le virus, c'est prendre le risque de voir des variants plus dangereux apparaître dans les prochains mois.
Victor Dolande.
C'est un nouveau risque face au Covid qui vient d'être identifié. On savait déjà que le diabète ou l'obésité pouvaient exposer à des formes plus sévères de la maladie. Eh bien, on découvre aujourd'hui que le manque d'exercice physique est aussi un facteur aggravant, selon une étude parue dans le British Journal of Sports Medicine.
Avant de se projeter dans un instant dans ce journal sur l'après-Covid, de rêver, de festivals ou de concerts, d'abord ces nouveaux chiffres dévoilés hier par Santé Publique France. On ne parle pas là de l'épidémie de coronavirus, mais de la pollution. 40 000 décès par an attribuables à l'exposition aux particules fines entre 2016 et 2019. Des décès évitables, souligne Santé Publique France, qui s'est intéressé aussi aux conséquences du confinement au printemps dernier. Il a permis d'éviter plus de 2000 décès liés donc à la pollution de l'air.
Une réunion donc demain à l'Élysée pour évoquer la réouverture des lieux fermés à cause du Covid. Si on se prenait un peu à regarder vers le bout du tunnel, l'échéance fixée à la mi-mai par Emmanuel Macron se rapproche.
Oui, et ce alors que le pic de la troisième vague n'a pas encore été atteint, malgré quelques 6000 malades du Covid actuellement en réanimation. Ce sont donc les conditions de la réouverture des bars, des restaurants, des terrasses, des salles de concert qui doivent être discutées. Mais déjà aujourd'hui, certains se préparent. On parlait des concerts. Ce sont les festivals désormais qui approchent pour l'instant pour eux. La règle, c'est 5000 personnes maximum assises. Pour de nombreux événements, il a donc fallu se réorganiser, Angèle Châtelier.
Oui, prenez le festival Jazz à Vienne, par exemple. Une quarantaine d'artistes sont déjà programmés sur 20 jours cet été, car les contraintes imposées sont plus faciles à respecter que d'autres festivals. Les amateurs de jazz ont l'habitude des concerts assis. Et puis, c'est un événement de taille moyenne, ce que souligne Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne.
Nous, notre jauge en assis debout, elle est de 7500. Si on fait du tout assis, on est à 5700. Et si on applique cette distanciation sociale, on retombe à 4000 personnes. Le festival 2021... C'est sûr qu'il ne sera pas pareil, mais on est assez proche, on va dire, de la configuration classique de Jazz à Vienne.
Chacun a sa solution pour que son festival puisse se tenir. À Carré, pour les Vieilles Charrues, on rallonge les festivités. Le festival se tiendra sur 10 jours au lieu de 4 pour pouvoir accueillir plus de monde sur la longueur. À Lyon, aux Nuits de Fourvière, on voit les choses en moins grand et on passe de 12 à 4 scènes. D'autres préfèrent changer de lieu. Le festival EuropaVox à Clermont-Ferrand sera exceptionnellement au stade Marcel Michelin pour permettre plus de distance entre les spectateurs. Le festival Rock in Évreux, lui, change même de nom et s'appellera pour son édition 2021 Rock in Chair, comprenez rock sur chaise.
Même en chaise, même sur chaise, on prend ce rock et ce retour des festivals pour cet été.
Un bon rocking chair, tiens, pour lire quelques recueils de poésie. Cette tendance dans les maisons d'édition, on passe du rock à la littérature, mais ça ne nous pose aucun souci. Cette tendance, le retour à la poésie. Pour Europe, hein, Nicolas Carreau.
Le prix Nobel de littérature 2020 est américaine et s'appelle Louise Gluck. En France, inconnue au bataillon, elle n'avait même jamais été traduite en français. Pourtant, on a eu Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, mais depuis, le roman est roi. Les éditions de l'Iconoclaste viennent de publier plusieurs recueils de poésie d'écrivains reconnus comme Cécile Coulon, Pauline Delabroix-Allard ou Akhenaton, le fondateur de IAM. Des livres courts, à peine 100 pages, et des textes vifs et brefs qui dépoussièrent le genre. Mathias Malzieu y publie le dernier règlement joyeux de la métrique amoureuse, pas de rime ou pas forcément un retour à la poésie libre.
On s'en fout que ça soit des quatrains, que ça soit de la prose. Pour moi, c'est une façon d'être au monde qui est un pas de côté. C'est en regardant le monde ou une situation d'une autre manière que la poésie peut arriver. Dans le cercle des poètes disparus, le professeur Keating dit à ses élèves à un moment de monter sur le bureau pour voir le monde d'un autre angle.
Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas ? Venez voir vous-même, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête.
Bête, sans doute pas, inutile, peut-être, mais comme dit Cyrano de Bergerac, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.
Notre poète aussi, Nicolas Carreau, et son émission tous les week-ends à retrouver sur Europe 1.
La Voix est libre, évidemment, avec Nicolas Carreau, le dimanche à 14h. Merci Marion Calais, il est 7h14 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
J-100, le compte à rebours qui nous porte jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux historiques en pleine pandémie, en vase clos, sans public étranger, sans les proches pour les athlètes, sans l'ambiance du village olympique. Dossier du service des sports de la rédaction à 8h, la préparation des athlètes justement au rythme du Covid. Et invité exceptionnel, Teddy Riner, triple médaillé olympique, 10 fois champion du monde de judo et illustre supporter du PSG. Le match d'hier, les Jeux de l'été prochain, le judoka Teddy Riner à 7h40, tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et je vous parle de crypto-monnaie, car ce monde, vous allez voir, est en train de changer à une vitesse extraordinaire.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous nous racontez une histoire ce matin, l'histoire d'une start-up créée il y a moins de 10 ans et qui vaut déjà plus de 65 milliards de dollars. C'est un cours qui fait trembler Wall Street.
Et cette start-up, c'est Coinbase. C'est une plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, des bitcoins bien sûr, mais aussi une centaine d'autres crypto-monnaies. Alors c'est fait pour le grand public, c'est très simple, il suffit d'ouvrir un compte. Le succès de Coinbase est fulgurant, la plateforme compte près de 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle se veut aussi très sûre. La sécurité des transactions, c'est l'obsession de son fondateur, Brian Armstrong, 38 ans, un ancien d'Airbnb, où il s'occupait déjà d'ailleurs de la sécurité des paiements et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une fortune de 14 milliards de dollars.
Non mais c'est, le monde change, mais le monde change très vite.
Ça vous fait rêver.
Non mais il y a déjà des anciens d'Airbnb. je veux dire, pour moi, c'est tellement nouveau encore. Bon, et c'est l'événement aujourd'hui à Wall Street où Coinbase va être coté pour la première fois.
Oui, et alors ce à quoi on assiste au fond, c'est la rencontre, ou plus exactement le télescopage de deux mondes. Songez que cette introduction en bourse est pilotée par la banque Goldman Sachs, l'institution la plus prestigieuse de Wall Street, fondée au milieu du 19e siècle et qui vaut elle-même 120 milliards de dollars, donc à peine le double de Coinbase. La plateforme, elle, fondée en 2012 seulement par Brian Armstrong, emploie 1250 personnes et elle vaut presque autant, ça va à toute vitesse, que BNP Paribas, par exemple, la première banque de la zone euro avec plus de 190 000 employés.
Oui, en fait, Wall Street parie là sur l'essor des crypto-monnaies.
Voilà, et à travers Coinbase, c'est en fait la monnaie électronique qui rentre en bourse aujourd'hui. On peut y voir un symbole, celui d'un monde qui petit à petit se convertit aux monnaies électroniques. Un monde où le dollar et l'euro sont désormais concurrencés bien par une multitude de crypto-monnaies qui présentent d'autres avantages qu'une monnaie classique, notamment en termes de confidentialité et de sécurité des transactions. Des crypto-monnaies qui suscitent un engouement aussi très fort. Il suffit de voir l'évolution stratosphérique du cours du Bitcoin, ça valait 6 500 $ il y a un an, c'était 62 000 $ hier, donc on a fait x10, alors c'est pas sans risque, il y a beaucoup de spéculation dans tout ça, mais ce que l'on observe, c'est qu'après les avoir boudés, les grandes institutions de Wall Street se convertissent aux crypto-monnaies. Coinbase est le symbole d'un monde où la monnaie est en train de basculer dans l'ère numérique et peut-être demain d'échapper au contrôle des États, ce qui serait une vraie révolution.
Merci Nicolas Barré, une vraie révolution que vous racontez le matin dans l'éclairage éco. 7h19. Le regard international de Jean-Sébastien Soldaini ce matin. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Grand reporter à la rédaction d'Europe 1, vous vous arrêtez ce matin sur un double sabotage.
Un coup de billard dont seuls les services israéliens ont le secret. Une petite explosion de rien du tout, mais pas n'importe où. À Natanz, le cœur du programme nucléaire iranien, là où la République islamique s'emploie à dépasser les bornes, là où elle enrichit son uranium en jurant sur le Coran qu'elle ne veut pas d'armes nucléaires.
Oui, le site a été touché dimanche, quelques centrifugeuses ont été endommagées, mais la production a vite repris.
C'était sans compter sans le deuxième effet de ce sabotage. Parce qu'avec cette explosion, les Israéliens n'ont pas seulement ciblé le programme d'enrichissement iranien, ils ont fichu par terre tout espoir de reprise des discussions avec l'Occident. Vous savez, ces espoirs de voir arriver Joe Biden en disant « Ok, les mollas, on oublie la période Trump et on se remet à parler tranquillement bombe atomique ». C'était reparti timidement la semaine dernière. USA et Iran discutaient indirectement dans un hôtel de Vienne. Washington trouvait ça constructif. Téhéran jugeait ça prometteur encore un peu, et tous se retrouvaient autour d'un chocolat chaud pour évoquer la levée des sanctions. Mais boum, Natanz, vous allez voir de quel uranium se chauffe l'Iran. Moins de 48 heures après, les scientifiques perses annoncent qu'ils enrichissent le minerai non plus à 20%, mais à 60%. C'est un niveau sans précédent dans le pays. C'est la dernière étape avant d'obtenir de l'uranium de qualité militaire, et ça ressemble fort à un bras d'honneur. Vu d'Israël, c'est un joli coup. Il montre que ses agents agissent à leur guise sur le sol iranien et laisse Téhéran bien isolé dans son coin.
Mais le plus embêté maintenant, c'est Joe Biden.
Exactement, parce que son allié israélien lui a fait un sale coup. Depuis son élection, le président américain multipliait les signes de bonne volonté sur ce dossier nucléaire. Là, il lui reste trois options. Il lève les sanctions pour calmer l'Iran et il apparaît comme faible en cédant à un chantage. Ou alors, il tente de rétablir le dialogue, mais le temps presse, des élections approchent à Téhéran et les durs du régime devraient reprendre la main. La discussion risque de tourner court. Dernière solution, il s'enferme dans la même logique que Donald Trump, pression maximum. Et là, c'en est fini de tout accord, quel que soit le choix. Joe Biden apparaît coincé par les choix de son prédécesseur. Et c'est bien l'horloge atomique iranienne qui donne le tempo.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, le regard international, 7h21. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, vous l'attendez ce matin.
Avec un petit syllogisme, le PSG a éliminé le Bayern Munich. Depuis 2017, tous ceux qui ont sorti les Allemands ont gagné la Ligue des Champions. Donc, on je vous laisse la conclusion.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus 1-0 par le Bayern Munich hier, mais ce sont bien eux qui se qualifient en éliminant le champion en titre. Pour vous, ils ont encore changé de dimension hier soir.
Après leur finale l'an dernier, voilà donc les Parisiens en demi-finale, deux fois de suite dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Mine de rien, ça vous pose une équipe. Le PSG rejoint les deux seuls autres clubs français à avoir réussi un tel exploit, Saint-Etienne dans les années 70 et l'OM au début des années 90. Les références absolues, ces équipes qui ont fait vibrer la France et dont on relate aujourd'hui encore les épopées avec fierté et nostalgie. Les Parisiens des années 2020 sont donc de cette trempe-là. Ils s'installent aussi à la table du gratin européen. L'an dernier, ils ont atteint la finale, mais il y avait toujours quelqu'un pour dire que oui, mais bon, c'était une édition spéciale, sans match aller-retour à partir des quarts de finale. Et puis oui, les Parisiens sont peut-être allés en finale, mais ils n'avaient eu que l'Atalanta et Leipzig sur leur route, pas franchement des ogres européens. Bon, là on est dans une configuration normale et ils viennent de sortir coup sur coup le FC Barcelone de Messi et le Bayern Munich champion en titre dans des matchs aller-retour. Ça va, c'est assez bling-bling comme tableau de chasse, je pense. On peut donc arrêter avec les oui mais, cette équipe-là fait partie des meilleurs, elle peut battre tout le monde. Il n'y a plus de mais qui tiennent.
Alors je vais quand même le tenter, le oui mais. Cette équipe n'a encore rien gagné, il faut le dire.
Certes, mais il y a quand même un grand changement. Si le PSG avait remporté la Ligue des Champions l'an dernier, par exemple, ça aurait été une sorte de divine surprise. Alors qu'aujourd'hui, les Parisiens sont installés parmi le Gotha et quand les planètes s'aligneront, pourquoi pas cette année, les voir soulever le trophée ne surprendra personne. Alors ça a l'air très froid comme ça, mais c'est tout sauf froid. On a tremblé pendant 90 minutes hier soir. Il y a eu des éclairs incroyables dans le jeu, un manque de réussite flagrant, des joueurs qui se sont battus comme des morts de faim et la libération à la fin. Cette équipe n'arrive pas à gagner chez elle. Elle est contestée au niveau national. Depuis le début de la saison, elle alterne le pas terrible et le magique, mais elle avance, elle construit son histoire européenne contre vents et marées. Il y a de l'action, de l'émotion, des résultats. Donc oui, cette équipe n'a encore rien gagné, à part les cœurs des supporters et le respect des adversaires. Ouais, c'est déjà un grand pas.
C'est déjà beaucoup. L'édito sport de Virginie Fulpin, et c'est vrai Virginie, on a regardé tous les deux, enfin chacun chez nous, ce match hier soir. Il y avait un autre match, un match féminin de football hier soir. Il faut peut-être en dire un mot. France-États-Unis, c'est bizarre.
France-États-Unis, alors c'est un match amical. Hein.
Mais contre la meilleure équipe de tous les temps.
Voilà, contre les championnes du monde entier.
C'est bizarre comme choix de programmation.
Bon, les Américaines ont gagné 2-0 d'ailleurs. Et en fait, ça ne pouvait pas être un pire moment. Enfin, je
si
sais pas, il y a un moment, il faut regarder le calendrier.
Féminin, c'est quand même bizarre.
Ouais, c'est
ça,
sûrement pas ça qu'il faut faire.
En pleine Ligue des Champions. Merci Virginie Fulpin. On avait cette conversation en antenne. Je voulais partager la réflexion avec nos auditeurs. Merci Virginie. C'est l'édito sport. 7h26. On retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Pour des raisons diverses et variées, avouables ou non, il peut arriver que certaines personnes se retrouvent dans un état de fatigue qui se prolonge. Dans ces cas-là, on dit qu'on est dans le coltard.
Oui, être dans le brouillard, dans le cirage. Quand on est dans le coltard, on n'est pas loin de l'inconscience. Mais alors d'où vient ce coltard?
Eh bien de l'anglais, Mathieu. Coal, c'est le charbon. Et tard, c'est le goudron. C'est donc un goudron dérivé de houille. Ne cherchez pas de contre-pétrie. Et cette matière, à l'inverse du bitume, est un dérivé du pétrole. Oui, je ne me vante pas souvent, mais j'ai quelques connaissances en matières organiques. Inutile de préciser que si vous êtes plongé dans le coltard, un liquide visqueux, vous avez bien du mal à vous mouvoir. Et que si vous êtes un ouvrier de la fin du 19e siècle et que vous avez manipulé ce produit dans un endroit mal ventilé, vous êtes rapidement hagard à cause des émanations toxiques. L'expression vient donc de là. On a respiré ce goudron, on est donc hébété. Aujourd'hui, on utilise cette formule plutôt après une soirée très arrosée ou très fatigante, ou les deux. On dit même avoir la tête dans le coltard. Notez que pour ceux qui chassent à tout prix des anglicismes, si vous ne voulez pas utiliser coltard, vous pouvez dire en bon français de France, être dans le goudron de houille. Mais pas sûr que les jeunes comprennent.
Je suis dans le goudron de houille. Ouais, faut essayer.
En Argentine, aujourd'hui, on dit estar en las nubes. Comprenez, être dans les nuages. En Espagne, estar pachucho, être patraque. Alors qu'en anglais, anglais, c'est « to be out to lunch ». En gros, on n'est pas là, on est parti déjeuner.
C'est élégant.
Voilà, si vous êtes dans le coltard d'avoir trop bu, n'oubliez pas ce joli mot de l'écrivaine québécoise Michèle Maillot. Certaines soifs sont préférables à toutes les ivresses.
On vous retrouve à 16h tout à l'heure avec Mathieu Noël.
Alors, aujourd'hui, on réunit Jean-Louis Fargeon qui a œuvré aux côtés de Marie-Antoinette, puis Jacques Guerlain et Alain Delon. Leur point commun, vous, me demanderez-vous? Eh bien, ils se sont mis au parfum. Une émission qui sent bon aujourd'hui.
À tout à l'heure, 16h, Stéphane Bern. 7h28, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ouais, peu de brouillard ce matin et donc peu de coltard, comme dirait Stéphane Bern. Brouillard, coltard, ça rime en plus. Alors les températures, elles sont froides, malheureusement encore froides, très froides. Moins 5 dans Charleville, Épinal, Vichy, Luxeuil. Je vous donne les valeurs parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de gens, d'agriculteurs, d'arboriculteurs qui en souffrent. Moins 2 à Clermont-Ferrand, 0 à Strasbourg, 2 à Rennes, 3 à Bourges, 4 à Marseille, 5 à Paris, 6 à Bordeaux et 7 à Toulouse. Températures actuelles, bien sûr. Dans le courant de la journée, nous irons de 10 à 18 degrés. 10 à Lille, 12 dans la capitale, 13 à Limoges, 14 à Lyon et Rennes, 15 à Brest, 16 à Biarritz, 17 à Marseille et 18 degrés à Agen. Vous voyez que les températures vont bien grimper dans le courant de la journée. Alors nous aurons du soleil pour beaucoup d'entre nous, un soleil vraiment omniprésent sur tout le littoral atlantique, sur tout le sud-ouest, le massif central, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Berry et la Normandie. Des nuages provisoires, mais des nuages quand même porteurs parfois d'averses sur la Picardie, le Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et sur la Provence et la Côte d'Azur, des giboulées. Voilà, avec du vent, toujours ce satané vent. Nord-Nord-Est.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 7h20.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Ce scrutin annonce un duel sociologique qui oppose deux provinces. Thierry Mariani arrive en tête, 31-27, c'est presque dans la marge d'erreur.
Le Rassemblement National va-t-il prendre la région PACA aux Républicains aux prochaines élections? C'est bien possible, d'après le sondage IFOP qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Un scrutin des régionales qui aura bien lieu en juin, mais avec une semaine de décalage. Dans ce journal aussi, des soirées poker et massages dans un quartier chic de Paris. La police vient de démanteler un tripot de luxe clandestin. Et puis les parcs d'attractions profitent de leur fermeture forcée pour se renouveler. On vous emmènera en Picardie à la mer de sable.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. J-100 avant les Jeux de Tokyo, il y vise un troisième titre, le judoka Teddy Riner dans quelques minutes. C'est aussi un supporter du PSG dans le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Le gouvernement suspend les vols en provenance du Brésil alors qu'il assurait la veille ne pas avoir le droit de le faire. Toutes ces hésitations, c'est un vrai carnaval.
Nicolas Canteloup ensuite qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Aujourd'hui, le docteur Steve Pascolo qui est cofondateur du laboratoire CureVac immunologue. On va parler recherche vaccinale. C'est l'un des pionniers de la recherche de vaccins à ARN et c'est à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le feuilleton électoral se poursuit. Les élections régionales et départementales sont bien maintenues au mois de juin, mais elles seront très légèrement décalées d'une semaine. Retenez bien ces dates, les 20 et 27 juin. Jean Castex l'a confirmé devant les députés hier. Claudia Bertram était dans l'hémicycle pour Europe 1.
Certes, ce n'est qu'une semaine. Une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinés. Tout compte.
Le Premier ministre détaille un certain nombre de mesures pour garantir la tenue du scrutin et de la campagne. Celle-ci devra être dématérialisée au maximum, prévient-il. Mais cela a des limites, estime le député communiste et candidat en Normandie, Sébastien Jumel.
Une campagne, c'est rencontrer des habitants, c'est aller sur des marchés en responsabilité. Masqué mais pas muselé, nous ne serons jamais des candidats Zoom.
Bien qu'alliés de la majorité, le Modem est le seul groupe où la plupart des députés se sont opposés au maintien des régionales. Leur chef de file, Patrick Mignola, met en garde.
Une campagne zéro Covid, tout en numérique, ce sera un scrutin zéro électeur.
Inquiétude aussi sur l'organisation du vote. Dans l'hémicycle, chaque groupe y va de ses propres propositions. Le député et président des Républicains, Christian Jacob.
Il faudra veiller à la sécurité des assesseurs dans nos bureaux de vote. En les vaccinant.
Et cet après-midi, ce sont les sénateurs qui en débattront.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
On va s'intéresser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ce matin, où le Rassemblement national de Thierry Mariani est en tête.
Oui, c'est ce que révèle un sondage Europe 1 La Tribune réalisé par l'IFOP sur les intentions de vote dans la région. 31% pour le RN contre 27% pour le candidat LR, Renaud Muselier. Un duel sociologique constaté ce matin. Le directeur adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, au micro de Sébastien Krebs, à Cannes. Notre correspondant Frédéric Michel est allé vérifier auprès des habitants.
Pour les électeurs de droite, afficher une préférence pour le Rassemblement national n'est donc plus tabou. Mais ce qui a convaincu cette cannoise, c'est Thierry Mariani.
Je ne pourrais pas vous parler du parti, je parle de l'homme, lui personnellement. Les idées, c'est autre chose, Marine Le Pen, c'est autre chose.
Et même les positions du Rassemblement national ne semblent plus être un obstacle pour les électeurs de droite.
Pour moi, personnellement, ils ont des idées qui se défendent, le Front National, hein, puisqu'ils se sont moins radicalisés. Mais après, il faut savoir gratter le vernis quand on va voter, quoi. On a souvent eu des surprises dans les urnes. Les gens, quand ils sont tout seuls, ils réfléchissent.
Si le vote reste incertain, l'image du Rassemblement National a changé. Marie et François, un couple de jeunes retraités cannois.
C'est la personnalité des gens. Moi, le parti, pas parti, je m'en fous. C'est nous, bien. On votera plus Muselier, oui. Mais après, je n'ai pas de blocage systématique.
Bah, voilà. Il y a un tel
ras-le-bol que de toute façon, c'est sûr que les gens voudront trouver un changement.
Rien n'a été fait dans le bon sens, c'est que ça va pas.
Déçue par sa famille politique, Nathalie a, elle, décidé de ne pas voter.
Nous, on était LR à la base, hein, mais maintenant, moi, le LR qui prend la suite vers tous ces gens-là qui sont quand même très à droite, qui tiennent des propos quand même très lepéniste. Ben non.
Et ces élections régionales auront lieu les deux derniers week-ends du mois de juin.
Frédéric Michel. La France suspend ses liaisons aériennes avec le Brésil en raison de l'inquiétude autour du variant brésilien du virus plus dangereux. Air France a d'ores et déjà annoncé l'annulation de ses vols vers et en provenance du Brésil prévus aujourd'hui. Mais pas encore ceux des jours suivants. La compagnie dit attendre les instructions du gouvernement.
Et on en reparle avec Nicolas Bétou dans son édito politique tout à l'heure. 7h34, un tripot clandestin vient d'être démantelé en plein cœur de la capitale.
Une maison de jeux de luxe avec à l'intérieur poker, restauration et massage alors que tous les établissements recevant du public sont fermés. Et Guillaume Bié, 6 organisateurs présumés ont été mis en examen.
Oui, ils ont vu grand, trop grand sans doute, ce père de famille, ses deux fils et leurs associés qui géraient jusqu'ici un tripot clandestin en banlieue parisienne. Affaire florissante, à tel point qu'ils ont tout déménagé le mois dernier, direction Paris, la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe. Les suspects ont réussi à louer un appartement de 250 mètres carrés réparti sur 4 étages. À l'intérieur, ils proposaient à leurs habitués des tables de poker, vente de cigarettes, de quoi se restaurer aussi, et avec, pour le confort des joueurs lors des longues parties, des serveuses masseuses. Rien que cela. Ce que les gérants ignoraient, c'est qu'à la direction centrale de la police judiciaire, le service des courses et jeux enquêtait sur eux depuis 6 mois déjà. Les policiers ont débarqué en pleine nuit et interrompu les parties en cours. Une amende à venir pour les joueurs et une garde à vue pour les 6 organisateurs présumés, dont l'un était armé. Ils ont tous été mis en examen.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
Et puis les parcs d'attractions sont dans les starting blocks pour pouvoir rouvrir. Ils attendent une date avec impatience.
Emmanuel Macron réunit ses ministres demain pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés. En attendant, pas question de baisser les bras. Les parcs mettent à profit le confinement pour installer de nouvelles attractions. Comme à la mer de sable d'Armenonville, c'est en Picardie. Zoé Pallier s'y est rendue pour Europe 1.
Là, c'est vraiment les petits détails qu'on soit vraiment au top. J'ai hâte de voir les gens en profiter et voir leur réaction.
Les pieds dans le sable, les ouvriers passent un dernier coup de ponceuse à l'ombre de la Silver Mountain. Ce nouveau Grand 8 a passé les premiers tests de sécurité. Reste le décor, quelques palmiers à replanter et des rochers à fixer.
Les wagons là sont prêts à partir.
Bruno Le Maire est le responsable technique du parc. Il coordonne ce chantier à 3 millions d'euros.
Alors là, on est à 15 mètres de haut. Quand vous allez monter là avec le train, vous allez tout voir. Tout le parc avec sa musique, sa foule, le bruit des manèges, le bruit des enfants qui hurlent, ça sera magnifique.
Et pour guider ses clients tant attendus, 200 travailleurs saisonniers. Antoine Lacarrière, le directeur du parc, a déjà commencé le recrutement.
Avant qu'on réouvre, ils seront protégés, ils seront au chômage partiel parce que c'est important, comme on n'a pas la date de réouverture, d'être certain que ces personnes seront bien disponibles, formées et ainsi pouvoir tout de suite répondre à la demande. Et dans les bonnes conditions, on pourra ouvrir le parc.
Une réouverture espérée avant le début de l'été. Pour rentabiliser ces investissements, la mer de sable compte sur le retour des habitués et sur la curiosité de nouveaux visiteurs.
Zoé Pallier, puis...
Vivement hein, qu'ils rouvrent ces parcs d'attractions. Moi, ça fait un an que je dis à mes enfants que Disney, c'est pas possible à cause du Covid. Un jour, ils vont voir que l'excuse tombera.
Eh ben, il nous tarde aussi, oui. Et puis, un petit mot de foot.
Vous connaissez la mer de sable?
Non, pas bien, non.
Ah, mais un jour.
Bah, j'irai voir, avec grand plaisir. Voir. Et puis, ça casse, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain. Malgré leur défaite contre le Bayern Munich, les Parisiens se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions, merci. Et même chose pour Chelsea. À suivre ce soir, Liverpool contre le Real Madrid et Dortmund contre Manchester
Encore
City.
Encore de très belles affiches et le gagnant de City Dortmund qui affrontera le PSG en demi-finale. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites minutes, le judoka Teddy Guirinère dans le tête-à-tête Europe Matin. Il est supporter du PSG. On va en parler, mais on est surtout à 100 jours tout pile du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Il est mon invité, vous allez l'entendre, depuis la Guadeloupe. Mais tout de suite, la touche âme. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu. Ce matin, en trois briques, je vous parle T-Rex, véganisme et flemme.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je ne vous cache pas mon étonnement en découvrant cette info, je cite « La Vegan Society demande la fin des biscuits en forme d'animaux ». En lisant ça, je me suis dit « Bon bah c'est bien, le monde part en sucette, on a un variant d'une nouvelle nationalité par jour qui mute dans tous les sens, mais heureusement, certains gardent le sens des priorités. Hein. » Puis je me suis dit « Quand même, non, c'est trop gros, c'est un poisson d'avril qui a mal tourné cette histoire. » Donc j'ai fait mes recherches et je me suis aperçu que cette info était reprise telle quelle par plusieurs sites, plusieurs médias, dont certains sérieux. La chaîne I24 News, par exemple, en a même débattu hier dans sa version des grandes gueules véridiques. Donc pour moi, c'est officiel, des véganes veulent interdire les biscuits en forme d'animaux. Et puis, en creusant un peu plus, je me suis aperçu que chaque site relayait l'info citée Je me suis aperçu que chaque site qui relayait l'info citait comme source le précédent site à avoir relayé l'info. Donc, je suis remonté au tout début de la chaîne.
Quelle journée !
Oh là là, quelle journée ! Là, vraiment une grosse enquête. Et là, stupeur. En fait, c'est une membre de la Vegan Society, une personne qui a écrit sur son blog perso en son nom un billet perso dans lequel elle explique que selon elle, les biscuits animaux donnent aux enfants l'impression de pouvoir les collectionner, les manipuler pour finalement les manger et que ça renforcerait donc la suprématie humaine sur les animaux. C'est son avis, mais à aucun moment elle demande la fin des biscuits. Hein. C'est comme si moi, sur mon blog perso, rien qu'à moi, j'écrivais « Le potage tomate de la machine à café, c'est pas super bon » et que ça devenait dans des articles « Europe 1 en guerre contre le potage tomate ». Mais surtout, son post date du 21 septembre 2018. 2018 ! Pourquoi des gens en débattent en 2021 ? Ben parce qu'on est des grosses feignasses, voilà. Aujourd'hui, on vérifie plus rien, on lit un titre, on se dit soit « Ah, c'est drôle !» ou « Ah, c'est con !» Et puis, on partage, et ça grossit. C'est ce qui s'est passé ici, et ça va continuer à grossir, à se déformer. À la vitesse où ça va faire l'ouverture de l'heure des pros, je vous le signe. Bonjour à tous. Quelle triste époque que la nôtre. Après avoir remplacé dans les rayons nos côtes de bœuf par des steaks de tofu, voilà que les dictateurs du bien-être animal en Sarwell en veulent à nos dinosaures. Selon ces zinzinzadistes, manger des biscuits en forme de dinosaures préparés des générations entières d'exterminateurs de T-Rex. On en débat ce matin. Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous ? Mais oui, Elisabeth, et puis ça va être quoi la prochaine étape ? Nous priver des bonbons crocodiles, hein ? Bah, ce compte-là, faut aussi interdire les princes, parce que ça incite au cannibalisme monarchique. Mais exactement, on peut plus rien dire, Elisabeth. Coluche serait en prison aujourd'hui. Allez, désolé, on n'a plus le temps, on doit passer au sujet suivant. Donc, quelle est la conclusion de tout ça ? Bah, un, faut rester vigilant sur ce qu'on partage, et oui. Deux, s'il faut interdire des biscuits, on commencera d'abord par les figolus et les chamonix, parce que c'est dégueulasse. Ouais.
J'adore ce débat. Moi, j'aime bien les figolus.
Bien sûr. Et demain, chocolatine ou pas en chocolat, histoire.
Ah ouais, le classico, comme bien on sûr. Dit. Bertrand Chameroy, le regard décalé. Le regard acéré de Bertrand sur l'actualité. Non, c'est une enquête ce matin.
Ah, c'est une vraie enquête. Merci vraiment, Bertrand Chameroy. Plenel en PLS.
On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Bordel. 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Les Jeux Olympiques de Tokyo dans pile 100 jours. Compte à rebours est l'occasion de s'intéresser à la préparation des athlètes en temps de Covid pour des Jeux en vase clos. Dossier dans le journal de 8h, la préparation du judoka Teddy Riner ce matin. Le judoka qui vise une troisième médaille d'or aux Jeux, 10 fois champion du monde déjà, excusez du peu. Teddy Riner est supporter de Paris aussi. Et alors qu'il est en pleine préparation en Guadeloupe, il a accepté de répondre à nos questions au coup de sifflet final du match PSG Bayern Munich. 23h à Paris hier soir, 17h en Guadeloupe. Le judoka Teddy Riner est mon invité.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Teddy Riner, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous répondre depuis la Guadeloupe, d'où vous avez suivi le match. Ouais. Alors simplement là, coup de sifflet final, le sentiment du supporter.
Ah, ça fait plaisir. Mais moi, je l'ai dit. Si on sort le Bayern, on va au bout cette année. Et surtout que les années précédentes, les finalistes de la Ligue des Champions, en général, ils gagnaient l'année d'après. Donc j'espère que ça va se faire, j'espère que ça va se réaliser. Ça fait longtemps qu'on y tient, qu'on la veut. Voilà. On avance pas à pas. J'espère qu'ils vont le faire.
Cette équipe, elle a ce qu'il faut pour aller au bout. Vous savez ce que c'est que gagner des compétitions, éliminer, arriver en finale. Vous voyez ce qu'il faut dans cette équipe ?
Bah, de ce qu'ils nous montrent, ils ont un très beau collectif. Maintenant, c'est d'aller au bout, c'est de croire en soi. On leur souhaite en tout cas de réaliser cette belle opportunité qui s'offre à eux. Hein. Ligue des Champions, c'est pas rien, surtout un club comme Paris. Moi, c'est mon club de cœur et mon club formateur. Donc, Je sais que voilà, il y a les moyens, il y a l'envie et l'envie d'écrire cette belle page d'histoire du sport français, mais surtout voilà, gagner cette belle étoile sur le maillot, ça peut être quelque chose de magnifique.
Vous êtes avec nous, Teddy Riner, ce matin sur Europe 1, parce qu'on est à 100 jours désormais des Jeux de Tokyo, des Jeux 2020 décalés par la pandémie, évidemment. Des Jeux Olympiques quand même, Teddy Riner.
Aujourd'hui, voilà, on peut y croire. Aujourd'hui, la date est fixée, on s'en rapproche, J-100. C'est le top départ final pour entamer les dernières qualifications pour certains sports. Et surtout pour moi en tout cas, c'est ma préparation. Dernière ligne droite pour être au mieux et pour arriver le jour J au meilleur de sa forme.
Ceux qui nous écoutent doivent bien comprendre que vous programmez vos prises et pertes de poids, vos phases de travail en fonction des objectifs et que décaler d'un an comme ça, ça a un impact lourd sur votre vie, sur votre préparation.
Ah ben ouais, tout a été, on va dire, programmé pour le jour J. Donc ouais, avec ce décalage, ben ça fait un moment qu'on essaye de tenir, de garder la forme, de garder le poids, de garder cette condition physique et de garder son meilleur judo. Donc du coup, oui, c'est une plus grande course contre la montre, mais j'ai envie de dire, la finalité est tellement belle que voilà, on est prêt à tout pour aller chercher cette belle médaille. Hein.
Teddy Riner, la préparation en Guadeloupe, là, ça ressemble à quoi vos journées? Je rappelle qu'on enregistre cette interview et qu'il est 17h pour vous. Ça ressemble à quoi vos journées quand le PSG ne joue pas?
Le matin, on commence par une petite cardio pas très longue, de 30 minutes. Ensuite, c'est petit déjeuner. Derrière, c'est direction l'entraînement où là, mon préparateur physique m'attend et on entame, on va dire, tous les muscles du corps, quoi. Derrière, j'ai une petite pause pour aller manger et ensuite, je reprends pour faire un deuxième entraînement où là, c'est judo spécifique, renforcement et puis un petit peu de prépa physique. Et derrière, là, je peux souffler. Là, par exemple, il est 17h, il me reste une heure et demie d'entraînement. Et je pourrais peut-être, si j'ai la chance, aller me baigner. Après, il ne faut pas être prêt avant ni après. C'est le jour J. Je le répète, le jour J, c'est primordial dans les sports individuels. Parce qu'on n'a qu'une seule chance. Si on n'est pas prêt au top départ, c'est fini. Il faut attendre 4 ans. Un sport collectif, il y a les poules, on a le temps de se refaire. Sport individuel, c'est one chance.
Vous aussi, Teddy Riner, vous vivez avec des restrictions sanitaires qui empêchent des stages, des entraînements à l'étranger. Là, on se dirige vers des jeux sans public. Ce sont un peu des jeux sans la fête.
Oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on traverse une crise sanitaire qui est particulière et qui, je pense, restera gravée à jamais pour tout le monde dans les esprits. D'avoir la chance de pouvoir aller aux Jeux Olympiques, pour nous sportifs, c'est déjà extraordinaire. C'est une épreuve de la vie et avec ou sans famille, voilà, il va falloir réaliser cet objectif. Et l'objectif pour moi, il est très clair, c'est de gagner l'or, de le ramener à la maison et ensuite seulement après ça, profiter et de fêter. Mais voilà, j'ai connu déjà 3 Jeux Olympiques et ça va être mes 4e. Donc je connais déjà l'esprit des Jeux Olympiques et je crois aussi que c'est quelque chose à vivre. Quoi qu'il arrive, même si c'est différent, il y aura quand même de l'ambiance dans ce village olympique, il y aura quand même de belles histoires. On aura le temps plus tard, après, quand tout sera au calme, de pouvoir profiter, de fêter comme il se doit les médailles s'il y a.
On retrouve un côté vivre au jour le jour. Vous avez connu, c'est vrai, d'autres Jeux Olympiques et vous vous dites ça, c'est peut-être un truc historique, un truc à vivre.
Ah mais c'est, de toute façon, ça sera des Jeux Olympiques historiques, hein. D'avoir repoussé d'un an les Jeux Olympiques, d'avoir un public 100% japonais, d'avoir plein de choses différentes qu'on n'a jamais connues auparavant. Forcément, ça restera dans les lexiques, hein, ça c'est clair.
Avec ce genre de situation, avec tous ces éléments dont on parle, Teddy Riner, est-ce qu'on sent plus le poids de l'âge? Je vais rappeler que vous venez de fêter vos 32 ans.
Aïe, 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 là vous m'avez tué là. Ça fait mal, j'ai senti les 32 années sur mes épaules. Non, 32 ans, c'est aussi un bel âge. Après, comment dire, j'ai acquis pas mal d'expérience, j'ai appris pas mal de choses et aujourd'hui, c'est vrai que je m'en sers pas mal dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis un père de famille qui a des devoirs, qui a des obligations envers ses enfants et ça change, c'est aussi autre chose. Puis à mes 32 ans, je vois pas le judo comme je le voyais à mes 18 ans, donc forcément, chaque année compte et en tout cas, c'est des belles années qui me servent dans mon judo, dans ma pratique et dans ma vie de tous les jours.
Une nouvelle maturité en tout cas. Et dans le même temps, vous avez une nouvelle équipe de nutritionnistes qui vous entourent, des préparateurs physiques, résultats.
26 kilos perdus, 140 kilos sur la balance, je précise, Teddy Riner. Vous dites, j'ai l'impression de rajeunir.
Mais bien sûr, je rajeunis, je me sens rajeunir, je me sens à chaque fois progresser et me sentir dans mes plus belles années. Et je trouve ça super d'avoir, de m'être entouré des experts de la performance. Franchement, j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix parce que je le ressens, un, sur mon hygiène de vie, deux, sur mes performances physiques et sur mes performances techniques. Donc franchement, je suis content de ces personnes qui m'entourent.
Je vous cite dans des interviews récentes au mois de janvier, j'ai envie de monter sur le tapis et d'attraper les mecs. Une autre interview, j'ai envie que tout le monde comprenne que cette médaille d'or à Tokyo, elle sera pour moi. C'est ça l'état d'esprit, Teddy Riner, là, vous avez faim ?
Ah bien sûr. C'est pas j'ai faim, je vais être vulgaire, j'ai la dalle. J'ai la dalle et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la dalle. Et je pense que c'est le changement, l'expérience, les entraînements, le renouveau et ça fait du bien.
Un troisième titre olympique, ça c'est l'objectif. Trois médailles en trois jeux, 10 fois champion du monde.
Clairement.
Quand on est Teddy Riner, on veut finir par une victoire au pays du judo ou par une victoire à Paris en 2024.
Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? L'objectif qui se propose à moi aujourd'hui, c'est Tokyo. Pour l'histoire de mon sport, c'est une belle aventure. Ramener la médaille, ça serait extraordinaire pour moi. Et puis terminer ma carrière de judoka, de sportif de haut niveau à Paris, ça serait l'apothéose. Mais chaque chose son temps.
Vous êtes attendu au Japon, hein, Teddy Riner.
Je crois que je suis attendu sur chaque compétition. Et oui, c'est comme ça, c'est le haut niveau, c'est la remise en question, la recherche de l'opposition. Et voilà, c'est quand on monte sur le tapis, c'est montrer ce qu'on sait faire et puis donner tout ce qu'on a.
C'est sûr. Teddy Riner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à 100 jours des Jeux de Tokyo ce matin sur Europe 1.
Merci à vous.
Et bon courage pour la fin de la préparation.
C'est gentil. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et ne manquez pas le dossier du journal de 8h sur la préparation des athlètes, certains moins connus que Teddy Riner, bien sûr. Préparation compliquée en temps de Covid. Dans un instant, l'édito politique de Nicolas Bétou. À tout de suite. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, Sonia reçoit Steve Pascolo, chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich, cofondateur de CureVac, laboratoire qui travaille sur l'ARN messager. Et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Bétou.
Monsieur le Président.
Le danseur éditorialiste, l'éditorialiste chorégraphe, le Maurice Béjart de la politique, le Pietragala de la chronique.
C'est trop, merci.
Je vous en prie, c'est mérité. Écoutez, non, c'est pas, en tout cas je vous reprends Monsieur Béliard, ce n'est pas le Président de la République qui vous parle, c'est l'épidémiologiste, surdoué que vous avez devant vous, mais... Mais alors, je vous pose la question, pardonnez-moi d'être un peu frontal, mais pourquoi invitez-vous Steve Pascolo alors que je peux répondre à toutes les questions scientifiques ? Puis entre nous, franchement, il est pas mal Steve en biochimie, en immunologie, mais il touche un peu sa bille, on est d'accord, mais il a quand même un prénom de candidat de télé-réalité, Steve. Hein ? Ça fait quand même un peu ch'ti à Mykonos. Hein ? Steve Pascolo, ça fait aussi un peu footballeur du PSG. Hein ? Neymar passe à Silva, qui passe à Pascolo sous l'aile droite, Pascolo déborde. Oui, bon, enfin bref, je m'égare.
Dans le commentaire.
Oui, alors, vous vouliez savoir quoi ? La situation brésilienne, vous en parliez avec M. Bétou. Ouais. Bah, écoutez, si le variant déboule vraiment, je vais gérer. Écoutez, vous savez quoi ? Tiens, allez, je vous prescris 4 semaines de plus devant Netflix. Voilà. En fait, je me rends compte que je suis plus enfermologue qu'épidémiologiste.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours à 7h55. Donc ce matin, le docteur Steve Pascolo, immunologue à Zurich, au micro de Sonia Mabrouk. Et puis Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de Presque. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et on regarde une fois de plus les températures, mon Dieu, elles se situent actuellement entre moins 5 et plus 5, car ça n'a pas trop bougé depuis tout à l'heure, elles vont commencer à peine à remonter, et nous aurons dans l'après-midi entre 10 et 18 degrés, car l'amplitude est toujours aussi énorme. Le soleil sera là pour beaucoup d'entre nous, sur le littoral atlantique, sur tout le sud-ouest, sur le massif central, dans son ensemble, donc le Limousin et l'Auvergne, le sud-ouest et l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Pays Basque, la région parisienne sera sous le soleil, la vallée de la Loire, le Berry, la Normandie. Et puis des régions où les nuages seront là, provisoirement certes, mais apportant ici ou là quelques flocons, notamment sur les Ardennes, sur les Vosges. Ce sera le cas sur la Picardie, le Nord, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Voilà des régions où le temps n'est pas folichon ce matin, mais ça va s'arranger. Pour Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, de la pluie et quelques giboulées en prime. Vent de nord à nord-est, c'est la raison pour laquelle il va faire encore froid dans les jours qui viennent. Le véritable réchauffement, ce sera pour samedi. Et puis la semaine prochaine s'annonce très agréable, je pense, c'est-à-dire avec pas mal de douceur. Et nous aurons donc une semaine prochaine qui sera sans commune mesure et celle que nous vivons.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé.